Salut à toutes et à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode de la troisième manche juste avant les finales de Coupe du Monde de Salbar. Aujourd'hui, entre gros globes de cristal, Lara Gout-Bérami, Michael Achifrine, Michel Guizine, Marco Odermatt et compagnie, on va aussi évoquer un sujet épineux avec nos deux chroniqueuses de la journée et ça va être vraiment très très bien. Avec Rebecca Garcia du Sport Center ainsi que Sim Visgott de skiactu.ch, on va essayer de trouver la saison parfaite qui fera plaisir aux suiveurs de ski alpin, aux sponsors, à la FIS, mais aussi aux écologistes qui commencent à s'inquiéter pour des hivers forcément avec de moins en moins de neige. Bonne écoute de la troisième manche. C'est parti, je suis avec Rebecca Garcia. Rebecca, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va pas mal, pas mal. Sim Visgott, comment ça va bien?
Ça va bien, merci. Bonjour Robin, bonjour Rebecca.
Bon, c'est parti, on commence avec Michaela Schifrin. Hein. Comment ne pas parler d'elle? On avait parlé de son bluff quasiment réussi la semaine passée en mettant la pression sur tout le monde sauf elle. Et puis finalement, elle dit qu'elle ne fera pas la vitesse, elle ne fera peut-être pas le géant. Mais Sim, elle arrive en slalom et puis elle explose tout le monde. C'est vraiment dingue.
Oui, c'est dingue, mais bon, après, c'est pas la première fois. C'est peut-être un peu méchant, mais bon, c'est quand même un peu la mise en scène américaine, toujours, que tu sais que c'était c'était quoi, Lévi, quand elle s'était fait mal à l'entraînement, puis après, elle revient, elle gagne de nouveau. Donc, c'est toujours un peu… c'est pas forcément juste elle, c'est aussi son entourage. Ils aiment bien créer cette grande histoire de… Oh, Si ça ne va pas, on a un peu une excuse, mais si ça va bien, après, elle a triomphé malgré tous les obstacles et tout. Donc, c'est toujours un peu ça avec Michaela Schifrin. Après, je ne dis pas du tout qu'elle n'était pas blessée, évidemment, elle l'était. Mais voilà, ça amène un peu d'excitation pour la fin de la saison.
Rebecca, ce qui est sûr, c'est que Schifrin voulait revenir au top, elle est revenue au top.
Ah, c'est clair, je pense que c'est aussi une petite tactique pour se dire, ok, je suis l'underdog, faut pas compter sur moi, comme ça tu peux y aller sans pression, et puis c'est vrai qu'elle le fait très bien, donc plus que jamais on voit qu'elle est là, qu'elle est en forme, quand tu reviens et tu gagnes un slalom, je pense que t'es assez en confiance, donc on verra ce que ça va donner d'ici la fin de l'année, mais la fin de la saison qui est quasiment demain. Mais c'est vrai que le je fais pas si je fais pas telle course ou quoi, moi j'attends de voir ce qu'elle va effectivement faire ou non parce que elle dit qu'elle est pas allée en descente et à Saint-Moritz elle a quand même gagné quoi.
Mais Sim, est-ce qu'on on comprend bien hein, le storytelling de quoi faire une série Netflix hein, pourquoi pas? Mais quand on voit comme elle est forte, quand on voit qu'il y a il y a le géant là, cette semaine et les courses de vitesse la semaine d'après avec la confiance qui est revenue. Comme dit Rebecca, mais est-ce qu'elle ne va pas les faire, toutes ces courses, finalement?
C'est très possible. Après, justement, comme disait Rebecca, c'est elle qui va voir. On n'est pas dans sa tête. C'est dur de prédire. La confiance, évidemment, ça aide beaucoup. Après, de nouveau, ça risque d'être aussi une décision un peu à la dernière minute, selon sa forme. Si tout va bien, tant mieux. Si elle sent que... quand même la blessure n'est pas complètement partie, qu'elle a encore un petit quelque chose, est-ce qu'elle voudra quand même tout risquer parce qu'elle est quand même à 350 points de Lara Gout-Bérami. S'il n'y a pas vraiment plus tellement d'enjeux, est-ce qu'elle va risquer encore peut-être une descente ou bien un super G si elle sent de nouveau quelque chose? Donc après, je crois que beaucoup de ces décisions seront faites à la dernière minute.
Bon, Rebecca, on a de la chance, entre guillemets, cette année. On ne nous a pas mis un machin par équipe ou un parallèle, je ne sais pas quoi, dans les pattes. Lara Gout-Bérami, elle a eu raison depuis le début, comme souvent cette année. Elle ne s'est pas excitée à parler de club avant ses finales. Elle a bien eu raison parce que sinon, elle se serait rajouté une jolie pression.
Non, c'est clair, sa saison, elle est pratiquement parfaite et tu te dis, c'est fou parce qu'elle pourrait avoir encore plus d'avance s'il n'y avait pas encore eu ces super jets annulés quand Schifrin était blessée parce que, en plus, elle est tellement régulière, elle sort, je ne sais même plus la dernière fois que Lara Gout-Bérami est sortie, mais elle est quand même impressionnante de constance, donc se dire qu'elle aurait pu être encore plus en avance. Je trouve ça complètement fou. Et effectivement, bah, elle a parfaitement géré sa saison. Je pense qu'à sa manière, et au contraire de Schifrin, elle a peut-être un discours qui est moins flamboyant, qui est moins I will be back, my darlings. Voilà, elle fait son truc, tête baissée, comme ils disent en F1 ou en cyclisme, et puis elle y va, quoi. Et ça a l'air de plutôt bien marcher.
Alors, Sim, je ne sais pas si tu avais lu le papier de Rebecca sur le sujet où elle évoquait un peu la différence de communication et de simplement de caractère entre Schifrin et Gutberami. Ce côté pas show-off où elle bosse et elle se tait, finalement, c'est comme ça que Lara Gutberami a trouvé sa plénitude, où elle arrive à plus de 30 ans, alors qu'elle a commencé à 16 ans, hein, et elle arrive vraiment à une plénitude, à cette régularité qui lui permet de gagner ce deuxième globe cette année.
Absolument. Bon, après, bon, c'est une généralisation, mais de nouveau, c'est un petit peu le showmanship américain comparé aux Européens qui ont peut-être un peu moins l'habitude de le faire. Et après, bon, Lara Gutberami, elle a aussi l'expérience elle était beaucoup plus présente au début de sa carrière et après, elle a réalisé que, en fait, elle n'arrivait pas c'était pas quelque chose qui lui allait. Et après, c'est une question de personnalité aussi. Il y a des gens qui simplement ont besoin plus d'espace, de temps pour eux-mêmes. Et elle a dit elle-même, elle s'est retirée des réseaux sociaux et elle a pas critiqué les athlètes qui sont dessus, mais elle a dit, ça prend beaucoup de temps. Il faut vouloir investir tout ce temps, tout cet effort, en plus des entraînements, des performances sur la neige. Pour être présent sur les réseaux sociaux, là, Lara Gutberami, elle a dit avant les finales, elle se retire chez elle et elle fait pas les entraînements, elle a besoin d'un moment pour se ressourcer. Et donc, au moins, elle a l'expérience, elle sait exactement ce qu'elle a besoin de faire pour être au top de sa forme. Et c'est là que, justement, on voit l'expérience qui compte. Michaela Schifrin, elle a aussi tout à fait l'expérience. Elle continue à être performante chaque saison. Mais simplement, c'est un autre personnage où elle a un autre entourage qui lui permet de gérer ça. Donc, chacune a sa façon de gérer, mais je crois qu'elles savent exactement ce qui leur va et comment être au top. Et puis, c'est pour ça qu'elles sont au top.
Dernier mot à propos de la Tessinoise, j'aimerais vous entendre les deux là-dessus. En Suisse, en Autriche, on est tous des ultra spécialistes de ski, forcément, c'est obligatoire. On passe nos vies entre les pistes et regarder les skieurs et les skieuses à la télé. Rebecca, outre la communication qui a changé de Lara Gutberami, il y a aussi son ski qui a su évoluer, notamment ces 5 dernières années. On se rappelle tous, on voulait manger notre télé quand elle mettait ce fameux drift avant chaque virage en géant, qu'elle a réussi à complètement gommer et qui a fait d'elle le futur petit globe de géant, la discipline de base et la discipline préférée de beaucoup. C'est aussi une remise en question à 28, 27, 28, 29 ans, d'arriver à changer sa manière de skier, c'est assez fou.
J'ai l'impression que Lara Gutberami, c'est pas pour lui jeter des fleurs gratuitement, mais que c'est vraiment une femme qui est hyper intelligente et hyper dédiée à son sport. Et du coup, avec ça, chaque fois qu'elle nous parle justement de son évolution du ski, de ses entraînements et autres, on remarque chaque fois qu'elle a vraiment cette remise en question permanente de ce OK, comment je peux faire mieux? OK, bon, je récupère moins bien qu'avant, donc comment je m'entraîne en prenant ça en compte, etc. Et effectivement, je pense que tu fais pas plus de 16 ans sur le circuit de Coupe du Monde sans avoir un minimum de jugeote et de capacité de remise en question de comment tu fais. Elle a aussi changé. Elle a longtemps gardé son préparateur physique, puis elle avait changé il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Mais ouais, enfin, je pense que juste, elle a su complètement toujours se réinventer. Elle connaît très bien ses forces, elle connaît très bien ses faiblesses aussi. Et je pense que cette remise en question permanente dans son style, toujours, ça va bien. J'ai vu passer une vidéo sur Instagram, c'était assez drôle. C'est quelqu'un qui compare en fait les lignes des skieuses, où tu as vraiment la comparaison au même moment de bah, typiquement Schifrin et Gutberami en géant. Et tu remarques à quel point les virages ne sont pas déclenchés en même temps, à quel point l'orientation du corps est à peine différente et tout. Tout ça pour des écarts de quelques centièmes. C'est vraiment taré, quoi.
Sim, sim, changer, ben, c'est horrible à dire, hein, mais surtout de notre part, mais à 32 ans, c'est presque une vétérane, et ben, on dit qu'on est plus vite en vitesse quand on passe la trentaine, mais elle a réussi à s'adapter, ben, pour le géant aussi.
Oui, bah, comme disait Rebecca, c'est aucun athlète ne va rester performant sur la durée sans avoir à s'adapter à un moment ou à un autre. Tu peux pas, enfin, d'abord, simplement physiquement, à 16 ans, t'es pas du tout pareil qu'à 32 ans. Aussi mentalement, tu vas approcher les choses complètement différemment. Et puis aussi ton entourage. T'as tout d'un coup, t'as d'autres skieurs qui viennent, t'as le matériel qui a changé, t'as la façon de faire. Donc tout change. Enfin, en 16 ans, c'est quand même énorme comme temps. D'une année à l'autre, même il y a énormément de choses qui changent. Donc c'est là qu'on voit la force de n'importe quel athlète vraiment de grands champions, c'est qu'ils arrivent à s'adapter. Et Lara Gut Berhami, elle a très, très bien montré au courant de sa carrière. Elle a eu des hauts et des bas, mais d'arriver encore à performer maintenant et de s'être adaptée, d'avoir trouvé les solutions quand elle avait des problèmes, bah, ça montre justement pourquoi aussi elle est une championne, pas juste les résultats.
Pour rester chez les femmes encore quelques minutes, tu as parlé d'adaptation, d'intelligence, d'entraînement. Rebecca Michalgizine, sa saison est assez incroyable parce que bah, elle disait qu'elle s'était très peu entraînée en slalom et que moi, vraiment, ça me frustre un peu. Je pensais qu'elle avait devant elle une saison énorme à faire en vitesse. Et puis, bah, ça a marché le contraire de ce que tout le monde pensait. C'est assez bizarre quand même.
Ouais, c'est clair que quand tu vois sa saison, tu dis, mais elle n'avait pas dit qu'elle voulait faire la vitesse plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle est plus libérée. Peut-être que juste elle a le feeling qu'elle n'avait pas avant, qu'il y a eu ce petit déclic qui lui manquait tout au long de la saison passée notamment. Et c'est bêtement venu comme ça. Mais c'est vrai que c'est curieux et ça doit être pas rageant, mais un peu frustrant, quoi, de se dire, OK, je mets toutes mes forces sur ça. Et ah tiens, ce que je cherchais à avoir depuis le début, en fait, je l'ai, mais sans faire exprès.
Sim Sim, on connaît bah, quand tu es pour le boulot dans les aires d'arrivée, tout le monde connaît la famille Guisine hein, parce qu'ils sont assez exceptionnels, très disponibles, polyglottes, marrants et tout. De voir que ça marche pour elle, pas forcément dans ce qu'elle a décidé que ça marcherait, ce qui est un peu bizarre, mais ça fait du bien parce que c'est vraiment une très belle personne.
Oh, absolument, elle fait plaisir, quoi. Elle a toujours le sourire. Peu importe son résultat, c'est vraiment une personne qui a toujours le sourire dans l'air d'arrivée, qui est toujours prête à parler aux journalistes, qui est toujours prête à parler aux fans. On la voit toujours signer les autographes pour les enfants. Donc, c'est une personne super sympathique. Après, bon, comme disait Rebecca, c'est frustrant quand tu réalises que c'est sans faire autant d'efforts que tout en coup, tu as les résultats. Mais en fait, c'est peut-être des fois, c'est la fraîcheur qui manque. C'est ça, c'est tu t'acharnes, tu cherches des solutions et ça marche pas. Et après, peut-être tu laisses ça de côté et ensuite ça revient naturellement. Elle l'a déjà montré. C'est pas comme si c'est nouveau qu'elle est bonne en slalom. Elle l'a déjà été. Donc, c'était peut-être qu'elle avait besoin de simplement retrouver ce talent naturel qu'elle avait. Et ça ressort quand elle se prend plus la tête en se disant, mais pourquoi les résultats ne viennent pas? On l'a vu, juste pour une petite note autrichienne, mais Manuel Feller, même chose. Tout d'un coup, il ne s'est pas vraiment entraîné en géant. Et tout d'un coup, il vient faire un podium à Schladming. Donc, je crois que ça marche pas pour tout le monde. Mais des fois, ça c'est bien d'avoir un peu cette fraîcheur. Et simplement, tu te dis, bon, bah voilà, je vais essayer. Et puis, tout d'un coup, tiens, ça marche. Et puis, des fois, c'est simplement, c'est le naturel qui revient.
En fait, Rebecca, c'est juste que quand on se relâche, quand on se met moins de pression, bah, ça va plus vite.
Bah, tout bêtement peut-être, ouais. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être un peu pareil des fois pour Loïc Meyer, tu sais, où tu vois que ça s'approche, ou des fois tu as des grosses phases de recul où tu finis 12e en slalom et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis à côté de mes pompes, alors qu'en soi, c'est déjà pas complètement dégueulasse vu à quel point ça va vite en slalom et à quel point c'est cruel comme discipline. Donc, peut-être que c'est juste, voilà, au bout d'un moment, t'as le déclic, tu passes avant les autres. Enfin, le slalom, j'ai l'impression que c'est tellement cruel comme discipline que ouais, peut-être c'est tout bêtement déclic, relâchement, ok, bon, je mets moins d'énergie sur ça, et Bah, ça marche.
La transition est toute trouvée. On va parler des finales et des hommes. Sim Sim, c'est à toi de faire le boulot là. Tu es l'envoyée spéciale permanente chez toi en Autriche pour skiactu.ch. Parle-nous de Salbar. C'est quoi? C'est où? C'est comment comme station? Est-ce que c'est bien d'y aller au mois de mars? Vas-y, raconte-nous. Fais l'office du tourisme.
En fait, c'est tout trouvé parce que Salbar, c'est une station où j'ai souvent été skier. Donc, c'est une très belle station, c'est une grande station. Ils ont, en fait, c'est plusieurs stations qui sont rattachées l'une à l'autre. Donc, en fait, c'est Salbar, Hinterglemm, il y a aussi Fieberbrunn, pas loin, et Saalfelden. Donc, tout ça, c'est rattaché. Toutes les courses sont dans un endroit, seulement dans une des stations, mais c'est une belle station. C'est pas les Hautes Alpes comme on a en Valais ou bien au Tyrol. C'est Salzbourg, je crois encore. La Styrie, c'est tout près. Mais c'est une belle station, des très belles pistes, et je suis souvent allée skier en mars, donc c'est super, quoi.
C'est à 1000 mètres d'altitude. Est-ce qu'il a neigé comme au sud des Alpes chez nous, il y a 1 mètre partout
Là, à ma connaissance, il n'a pas vraiment neigé là dernièrement, mais normalement, enfin, j'ai encore regardé il y a quelques jours le bulletin de neige. Toutes les remontées sont ouvertes, il y a plein de neige sur les pistes. Je crois pas devrait y avoir de problème.
D'accord. Parlons un peu sport. Déjà, Rebecca, c'est quoi cette nouvelle invention de la FIS? Avec, on l'a dit, hein, pas de parallèle, pas de truc par équipe, mais quand même sur deux week-ends. Pourquoi?
Pourquoi pas tester des trucs, hein? C'est vrai qu'on n'arrête pas de râler comme quoi la FIS n'est pas très novatrice dans son approche. Bon, pour être allé à plusieurs finales de Coupe du Monde, c'est vrai que tu remarques le mardi, pour voir des choses, à part les écoliers qui sont là parce que ouhou, on est dans la région et on a été invité, il n'y a pas grand monde, quoi. Les gens, ils préfèrent skier que des fois même que de regarder des manches de géants ou autres. Un mardi du mois de mars. Donc, franchement, ça se tente, pourquoi pas. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je sais pas à quel point c'est plus simple aussi au niveau de la peut-être de la préparation des pistes, de vraiment avoir ce beau côté. Voilà, on travaille là les pistes de descente, de super G, et après on a quelques jours de trêve pour. Enfin non, en fait c'est l'inverse. D'abord la technique, et après quelques jours de trêve pour les entraînements et pour les descentes et super G. Je pense que ça peut être une bonne formule à voir. Mais je suis assez curieuse de ce que ça va donner. Mais je pense que autant pour la neige que pour les spectateurs, c'est pas une mauvaise idée. Donc à voir si ça prend réellement ou pas.
Sim Sim, c'est une répétition générale des mondiaux de la saison suivante, mais en fait, ça va beaucoup se ressembler parce que les mondiaux, c'est sur 2 semaines aussi.
Oui, bon, après, quand on dit 2 semaines, ça commence un samedi et ça finit le dimanche d'après. Donc c'est
Deux
pas forcément
week-ends, d'accord.
les deux week-ends. Donc en fait.
Joue pas sur les mots depuis l'Autriche.
Non, mais disons que c'est en fait pas si différent du format d'avant. Avant, ça commençait le lundi, c'est terminé le dimanche. Maintenant, ça commençait samedi. Ils prennent avantage du fait que, ben, comme ça, le week-end, tu auras peut-être plus de spectateurs. Pour les télés, c'est encore mieux. Ça paraît logique. En fait, c'est presque étonnant maintenant quand on y pense qu'ils n'ont pas fait ça avant, parce que les courses, ça a toujours été les week-ends. Et puis alors, pourquoi faire ça sur la semaine, surtout si les athlètes maintenant sont de plus en plus spécialisés et n'ont pas besoin de faire une, ne font pas une course après l'autre, mais font surtout la vitesse ou bien la technique. Mais oui, donc ça me paraît assez logique de faire ce format. On verra comment ça marche. Mais oui, ce sera intéressant de voir comme répétition générale pour les championnats du monde l'année prochaine. Ils ont l'habitude de faire des courses, donc on a toute la confiance que ça marchera bien. Mais voilà, ça donne aussi l'occasion aux médias et aux organisateurs et à tout le monde d'avoir une première impression sur place, de voir comment c'est, et puis de se préparer pour l'année prochaine.
Très très bien. Le temps file, hein, on va pas retresser des louanges à Odermatt pour la 178e fois cette saison. Moi, j'ai envie de qu'on parle de Loïc Meillard. Rebecca, tu en as déjà un peu parlé. Ça devait être frustrant au début de saison. On voit qu'il en a, il en avait gros. Et puis, bah, il y a le week-end dernier absolument exceptionnel. Bah, il n'est pas réussi à battre Audi non plus. Bah, ça, je crois qu'on va oublier. On va mettre un autre classement. Mais surtout, avec sa régularité, finalement, Rebecca, il est presque deuxième au général de la Coupe du Monde. C'est taré.
Avec toutes les disciplines qu'il fait, c'est clair qu'il amasse des points. Alors en plus quand il commence à gagner et à être sur tous les podiums, franchement son week-end à Aspen, il était incroyable. C'est vraiment fou ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'était pas franchement bien parti en début de saison. On l'a vu quelquefois un peu outré, enfin pas outré, mais énervé en tout cas, frustré dans l'air d'arrivée. Donc je pense que ça fait plaisir parce qu'il y a tellement tout le monde qui répète que Loïc Meyer, c'est le beau ski, c'est voilà, c'est un gars bien, qui skie bien, etc. etc. Tu dis ok, mais gagne, vas-y. Et ça fait plaisir qu'il arrive à sortir ça.
Il y a ce côté esthétique. Hein. Moi, j'écoute souvent sur Eurosport où les gars ils sont ébahis. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Et ça payait pas toujours. Et ça devait être extrêmement frustrant pour lui aussi. Et puis, il a fini par gagner ce premier slalom. Je ne me rappelais même pas de cette stat. Mais ouais, tout premier slalom, j'espère que ça va le libérer. Hein.
Absolument, c'est comme disait Rebecca tout à l'heure. Je crois qu'il a eu le déclic maintenant. Enfin, on l'a vu tellement souvent avec d'autres athlètes aussi. C'est au moment où il commence à gagner et ils savent que c'est possible. C'est plus un doute. C'est simplement tu sais que tu peux le faire et ça te donne peut-être une détente, le déclic simplement d'aligner comme ça un podium après l'autre, trois podiums en un week-end. Incroyable. Enfin, et ça se voyait que simplement, voilà, il se prenait plus la tête, il savait qu'il pouvait le faire. Et on l'a vu justement avec beaucoup d'autres athlètes, de nouveau. Je mentionne Manuel Feller, la même chose cette saison. Avant, c'était ça passe ou ça casse. Lui, on savait jamais s'il allait sortir en deuxième manche. Là, tout d'un coup, il y a cette confiance aussi cette saison de savoir que, OK, j'arrive en bas, je sais maîtriser le parcours et un podium est tout à fait possible. Et je crois que ça, ouais, la confiance, quoi. Simplement, la confiance et le déclic.
Rebecca, on parle de confiance pour Loïc Meyer. C'est quand même une famille pas comme les autres, hein, parce qu'il y a ce côté Neuchâtelois des Raymonds dont on parle beaucoup. Il y a sa frangine dans l'affaire. Ils sont très médiatiques, mine de rien, en Suisse romande. Lui, c'est peut-être pas forcément le plus drôle à l'interview. On sent qu'il est quand même dans son monde. Il n'est peut-être pas non plus dans le chalet à boire des canons avec Justin et Marco quand ils sont en tournée nord-américaine. C'est un caractère un petit peu spécial.
C'est un caractère très sérieux et très pro en fait. Et je pense qu'il y a aussi je sais pas si c'est une pudeur ou simplement du professionnalisme, mais de pas avoir envie de trop se livrer, de pas peut-être de pas confondre le travail et les amis et les potes et enfin un peu ce mélange des fois que tu peux voir entre athlètes et journalistes où des fois ça s'inverse presque dans le familier. Donc je pense qu'il se protège de ça. Pour des raisons qui lui sont propres et si ça marche pour lui, ben, tant mieux pour lui. Mais effectivement, à l'interview, c'est pas vers lui que tu vas quand tu veux avoir un peu des insides ou des choses très, 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 pas familières, mais un peu, voilà, un peu plus du cru, on va dire.
Sim, hein, t'avais reconnu la photo de Loïc Meyer avec son verre de blanc en bas le télécabine à Grimens. Ouais, quand lui parle de sa course en bas de la piste, c'est un peu lapidaire et c'est pas, ouais, comme dirait Rebecca, c'est pas lui qui va se livrer le plus, hein.
Non, c'est vrai, c'est les phrases très courtes, c'est des oui et des non s'il peut. Mais après un moment, on voit, enfin, quand on a passé quelques temps sur le circuit, quand on voit ces skieurs en air d'arrivée, on commence à voir aussi leurs expressions. Enfin, quand c'est pas juste Ah oui, je suis content, mais tu vois le sourire ou un certain rayonnement que vraiment tu sens que la joie est là, le soulagement. Et je crois que c'est aussi notre devoir de pas juste citer les gens, ça c'est exactement ce qu'il a dit, mais aussi de montrer un peu plus que c'est pas, je veux dire, après tout, leur boulot, c'est pas d'être devant leur, enfin, évidemment, ça fait partie du boulot, mais leur boulot principal, c'est quand même de sur les skis, c'est pas forcément devant la caméra, donc pas tout le monde est bon à ça, et il y en a qui le font très naturellement, et les gens comme Aude Harmat, qui simplement sont, tout le monde l'adore, et c'est une grande personnalité, mais c'est aussi parce que là, il est en train de gagner, si tout d'un coup, il a une mauvaise phase, ben, est-ce qu'il fera la même chose? Donc, c'est clair que, surtout des skieurs qui ont ou des skieuses qui ont peut-être eu un peu plus de difficultés après un moment, c'est vrai que chaque semaine tu dois dire pourquoi est-ce que tu n'es pas dans le top 10, pourquoi tu n'as de nouveau pas fait le résultat, mais tu skies tellement bien en entraînement. Après un moment, ça c'est clair que ça va être difficile, faut quand même l'admettre. Nous, évidemment, c'est nous qui posons toujours ces questions, et puis mais faut admettre que bah c'est pénible de l'autre côté aussi, et il y a certains skieurs simplement qui soit ont besoin de faire ça pour se protéger, comme Lara Gout-Péramy, qui sont un peu plus distants, ou d'autres simplement côté personnalité comme Loïc Meillard, qui voilà, sont pas des gens assez penchés, mais ils sont quand même là, ils sont quand même prêts à parler quand on leur pose des questions, même si c'est des réponses très courtes.
Mais mine de rien, même Loïc Meillard, je trouve ce qu'il a de particulier, c'est qu'il va pas ne pas répondre en fait. C'est-à-dire que quand tu lui poses une question, enfin si tu arrives à poser la bonne question, tu auras quand même un petit peu l'info que tu veux, tu vois. Quand on lui posait la question sur les parallèles, tu vois à la fois à son expression et à son discours de ouais, la FIS a décidé ça, on n'a pas été consulté. Je crois que c'était pendant les mondiaux qu'il y avait ces questions des parallèles. Il répond quand même, et quand tu lui dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec le ski qui s'est décroché? Je sais pas. Mais du coup, il répond quand même si c'est très court. Donc, au final, je me dis, c'est aussi à nous de poser des questions qui l'obligent à lui donner des réponses un peu intéressantes.
Et c'est vrai, comme tu dis, là, qu'est-ce qui s'est passé avec le ski qui s'est décroché? On demande des réactions, mais dans les minutes qui suivent une performance, quand ils n'ont pas encore absorbé soit la victoire, soit la défaite, soit qu'est-ce qui s'est passé avec leur course, on leur demande une analyse tout d'un coup. Donc, c'est clair que c'est quand même beaucoup demandé. Et ils n'ont pas forcément la réponse toujours, donc il faut aussi admettre que bon, il faut c'est notre boulot de poser la question, de savoir ce qu'ils ont à dire. Il y en a certains qui arrivent à broder et à te sortir un gros blabla qui parfois n'a pas beaucoup de fond. Il y en a d'autres qui simplement qui vont droit au but et qui disent bon bah je sais pas. Et puis voilà, et c'est aussi une réponse.
Pour terminer, je vous ai donné des leçons hier. Quel est, à votre avis, le calendrier de Coupe du Monde le plus, comment dire, éco-responsable, mais en même temps intéressant, mais en même temps qui plaît à Daniel Yule, et puis qui serait possible de faire avec la neige qu'on a dans les années 2020? Alors, je vais commencer par moi, parce que charité bien ordonnée commence par moi-même. Puis Rebecca m'a donné une super idée. C'est déjà, je vais faire comme au Swaski, je vais faire une tournée d'été. Ça va être très important. Alors, ce sera moitié dans des dômes, moitié sur du sable. Donc, il y aura la dune du Pilat, il y aura Dubaï, il y aura l'Arabie Saoudite. Comme on fait du ski accro en Arabie Saoudite, je pense qu'on peut bien y foutre un slalom ou je sais pas quoi, mais pas les filles, hein, quand même, sachant raison garder. Et puis après, c'est très simple. On prend les trois ou quatre glaciers qui restent, on fait des géants des slaloms, pas trop tôt, hein, depuis début décembre. On fait semblant d'essayer de faire des courses à Zermatt vers la mi-décembre pour vendre deux, trois skis. Après, on reste normal, saison européenne, l'Italie, Noël, Nouvel An, ils aiment bien, il y a des marchés de Noël, c'est joli. Wengen, Kitzbühel et compagnie, c'est sympa. Après, on va voir chez les Français quand même, parce qu'ils ont bien le droit d'avoir des courses quand ils arrivent en organisé, très bien. Après, vraie tournée nord-américaine, mais on prend tout le monde, hein. Le combiné nordique, le biathlon, on fait deux charters, on fait Palisades Estao, on fait la Californie Aspen, on va au Mont-Tremblant, on va dans les Catskills, on va où vous voulez. Il y a même un dôme à côté du MetLife Stadium à New York. On fait un mois de tournée nord-américaine avec tous les sports de neige. C'est parti. Et après, deux, trois petites courses pour rigoler. Je sais pas, on peut refaire Crans-Montana ou Vézona. Apparemment, ils ont envie de faire des slaloms là-bas. Les finales pour préparer aux mondiaux de l'année d'après. Et puis voilà, c'est fini. Je pense que je devrais être engagé à la FIS.
J'ai l'impression que tu as cherché sur Google tous les dômes qui existent pour organiser tes courses.
Alors, rigole pas, je l'ai fait il y a quelques semaines, moi, pour un papier débile. J'en ai trouvé à peu près 120. Il y en a en Égypte, il y en a en Belgique, il y en a partout. Il y en a 120 à travers le monde, il y en a en Malaisie, en Australie. Tu te rends pas compte, on peut faire un tour d'été. Vraiment, ça marcherait très, très bien. D'ailleurs, il y a dans un mall au Qatar où une jeune Britannique a gagné, mais avec 7 secondes d'avance sur tout le monde. Ça se joue, c'est des slaloms sur 3 manches. Et ouais, je t'enjoins à regarder ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, ça, on en débattra une autre fois quand on aura plus que les dômes pour faire du ski. Sim Sim, à toi.
Oui. Alors, jolie provocation, très jolie, bien vu, Robin. Ouais, bon, bah après, désolée, je vais être un petit peu plus sérieuse, mais après, déjà, une saison un peu plus longue, les stations de ski sont ouvertes jusqu'en avril. Pourquoi est-ce on termine déjà la saison de Coupe du Monde mi-mars? Ensuite, bon, après, le côté écolo, ça va pas forcément le faire, mais c'est comme une Coupe du Monde, quoi. On parle d'une Coupe du Monde, donc pourquoi c'est d'accord, États-Unis, c'est clair, Aspen et Palisades Tahoe, c'était des très belles courses. Ça a montré que, en fait, ça vaut le coup d'aller aux États-Unis, si c'est bien organisé. Killington, c'était pas tout à fait ça, et sans retransmission télé, c'était pas la joie. Mais après, justement, les autres sports, que ce soit le snowboard, le freeski, le saut à ski, ils vont en Asie aussi. Pourquoi ne pas faire des courses au Japon, par exemple? Les Japonais, ils vont bien skier, c'est tout à fait possible de faire une course là-bas. En Chine, bon, moyen la neige, mais...
Mais au moins, il y a de la neige agressive et de la vraie neige pour Daniel Yule là-bas.
Voilà. Et puis, je veux dire, Corée, pourquoi pas? On peut aussi faire une petite tournée en Asie. Et après, bon, après, une chose qui serait intéressante, et avec toutes les annulations qu'il y a eu, je me demande s'il ne faudrait pas avoir quelques dates de remplacement prévues à l'avance. Tu sais, par exemple, juste pour savoir que, bon, bah, pas que ton cours, quand il y a une annulation, ah mince, maintenant, mais ça où? Mais de prévoir déjà à l'avance. S'il y a, par exemple, chaque mois, est-ce qu'il y a un ou deux endroits où on pourrait faire des courses remplacées? Comme ça, les organisateurs le savent déjà, ils ne doivent pas ramer à la dernière minute. Et c'est facile à mettre en place. Après, bon, le problème, évidemment, ça sera toujours les droits télé, etc. Tout le monde se dispute, comment on va faire? Et chacun veut à peu près protéger ses propres intérêts, mais on a montré quand on veut, on peut, parce qu'on a eu une Coupe du Monde de foot au Qatar en plein hiver. Et bah, les télés se sont adaptés, tout le monde s'est adapté. Donc, je vois l'argument que, oh oui, mais bon, il y a d'autres sports après en été ou bien au printemps on ne veut plus montrer du ski, personne ne veut regarder le ski. Moi, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, parce que les gens regardent bien du tennis en plein milieu de l'hiver. Les Australiens, hémisphère sud, ils regardent bien des sports quand c'est pas leur saison non plus. Donc voilà, c'est un argument un peu bateau. Et puis après, bah, en résumé, ça personne va le faire. En gros, il faut prendre le calendrier qui existe, le foutre à la poubelle et commencer à zéro. Et voir d'abord où est-ce qu'il y a de la neige? En quelle saison? Quand est-ce qu'on peut le mieux faire mieux organiser les courses? Et puis partir de là. Mais personne ne va vouloir faire ça.
J'aime beaucoup, et c'est vrai que j'avais pas pensé à faire quand même une sorte de une pré-coupe du monde, tu sais, août, septembre, tu vas au Chili, tu vas en Argentine, tu vas en Nouvelle-Zélande, et tu peux faire des trucs super, et puis bah, là, tu toucheras forcément à un public bah, qui fait du ski aussi, parce que Dieu sait que c'est des sports presque nationaux là-bas aussi.
Mais justement, et puis d'ailleurs, je veux dire, les skieurs se sont plaints cette année de Zermatt Cervinia, parce que normalement, ils vont s'entraîner aux États-Unis et ensuite on les course là-bas. Donc, de toute façon, ils ont envie d'aller s'entraîner outre-Atlantique. Donc, pourquoi pas tout de suite faire les courses là-bas? Et puis, bon, après, c'est pas la porte à côté, mais je veux dire, si tu vas déjà aux États-Unis, pourquoi pas aller en Amérique du Sud?
Rebecca, à toi.
Dans le même ordre d'idée que Sim, et pas que toi, bizarrement, Robin. Mais bizarre. Mais
Normal.
alors bon, je pars aussi du principe que une Coupe du Monde de ski, ça peut pas être écolo parce que à partir du moment où t'as la notion de Coupe du Monde, c'est qu'il faut aller partout et du coup il y a des déplacements et du coup t'es de toute façon tu vas de toute façon prendre tes petits avions qui polluent bien. Donc par contre, tu peux essayer de faire ça de manière à peu près intelligente et à peu près de grouper les choses. Donc moi, je serais parti du principe que Sölden, Zermatt, ça dégage. On fait de la place, on commence, si on peut, la saison un peu fin novembre, mi-novembre, comme ça, suivi, enfin, en suivant un bloc d'entraînement qui a été fait en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Je connais pas exactement les conditions de neige là-bas, j'avoue que j'ai pas trop fait ça, donc on imagine que c'est possible. On fait un petit postulat comme ça. Ensuite, on peut aller en Europe un moment. On peut couper aussi des courses et des classiques. Et au bout d'un moment, les fédérations qui veulent tout avoir 150 000 courses parce que, ah, moi, je suis l'Italie, j'ai droit à 1 000 courses. Ah, moi, l'Autriche aussi. Ah, moi, la Suisse aussi. Et je vais en rajouter parce qu'en fait, on a aussi envie de faire des courses par-ci et par-là. Au bout d'un moment, choisissez. Ce sera peut-être aussi sain, peut-être même quitte à faire une rotation. Et je suis désolée pour les grands fans. Enfin, voilà, je suis d'accord qu'une saison sans Kitzbühel, ça ferait bizarre. Mais si ça permet de faire une rotation et de faire moins de jaloux, et que tu as un gagnant de Kitzbühel tous les 2 ans, bon, ce serait hyper triste pour les athlètes qui se blessent à ce moment-là, mais à voir s'il faut pas au bout d'un moment couper des courses, même si c'est des classiques, il faut faire des choix. C'est aussi ce que me disait Michel Vion quand je l'avais vu à Crans-Montana. Il me disait, le problème, c'est que tu décales ta saison et tu fais quoi derrière? Ok, cette course, on va la mettre plus tard, et du coup, on fait une croix sur quoi? Sur Bormio ou sur autre chose? Enfin, tu auras de toute façon des problèmes comme ça en décalant, donc il faudra réfléchir à ça. Et après, effectivement, Coupe du Monde, Japon, petit tour en Japon en mars, comme ça, pour conclure, avant d'éventuellement faire des finales, mais ça ferait un déplacement en plus et ce serait pas fou. Mais dans l'idée, une Coupe du Monde qui serait vraiment Coupe du Monde, où tu te permets de couper des classiques ou des courses qui sont habituellement là et que ma foi c'est triste si c'est pas là, etc. Au bout d'un moment il faut faire des choix et en cela je pense que c'est aussi aux fédérations nationales de décider ce sur quoi elles veulent mettre la priorité ou pas, histoire qu'il y ait pas trop de jaloux, qu'il y ait pas trop de chasse gardée non plus et qu'il y ait un peu après c'est pas non plus pour qu'il y ait un candidat petit poucet de derrière les fagots qui propose une piste à 400 mètres d'altitude, hein, c'est pas le but. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu intelligemment et de vraiment recommencer à zéro en se disant, OK, il faut que ce soit quelque chose de mondial avec cette région du monde, cette région du monde, cette région du monde qui s'enchaîne.
La F1
Juste,
vient ici,
pardon.
vas-y.
Juste pour ajouter à ce que disait Rebecca, bah, ça existe déjà, c'est Altenmarkt et je ne sais plus quelle autre station qui prennent à tour de rôle chaque saison. Donc, c'est un modèle, je crois, tout à fait intelligent, que comme ça, on ne laisse pas complètement tomber Kitzbühel ou Wengen du calendrier, mais ils font un tour de rôle. Donc après, les organisateurs savent déjà à l'avance, OK, dans 2 ans, j'aurai ça, mais l'année prochaine, j'aurai pas. Ils peuvent organiser, on a quand même les classiques. S'il faut laisser tomber les classiques, ça peut aussi être d'autres courses. Mais je crois que c'est une façon de justement satisfaire tout le monde, que les fédérations auront toujours leurs courses. Mais de pas non plus, mais d'avoir un calendrier qui est faisable. Et après, c'était quoi le Belge Armand Marchand hein, qui a fait un coup de gueule ce week-end sur les réseaux sociaux. Mais justement, on a besoin de plus de flexibilité. Le fait de pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de faire des courses de vitesse si elles sont annulées le week-end, de faire le lundi? Ou bien les disciplines techniques, les slaloms et les géants en semaine. Les nocturnes, ça a énormément de succès. Donc, ça n'a pas besoin de toujours être le week-end. On parle toujours des droits télé, mais les télés, elles savent s'adapter pour les autres sports. Donc, c'est pas, c'est de nouveau, c'est un argument un petit peu bateau. Et je crois que il y a beaucoup plus de flexibilité possible de tous les côtés. Comme tu dis, Rebecca, les fédérations doivent aussi donner un petit peu. Mais je crois qu'il y a des solutions possibles. C'est juste qu'il faut prendre en compte les changements maintenant climatiques, mais aussi les intérêts de tout le monde. Et il y a un juste milieu, je crois, à trouver.
C'est magnifique, j'espère que Michel Vion et le rebelle John Elias nous écoutent. Hein. On est très écoutés dans les milieux presque plus que par les gens. Donc moi je me dis que si la F1 réussit à adapter des trucs, tout est possible vraiment. Et... Ou bel exemple, hein, Vezona qui fait sa course de ski cross ce samedi avec jour de réserve le dimanche. C'est très bien vu, comme ça on est quasi sûr d'avoir une course. Bravo, bravo messieurs. Merci mesdames, c'était très intéressant. Et puis bonne finale à vous.
Mais pareillement, merci pour pour cette belle discussion.
De même, à la prochaine.
Bientôt.
Bientôt.